Il est 6 heures, vendredi 5 juin. Bonne journée et bienvenue au 98.5 FM. Alors ce matin, 16 degrés environ, ciel généralement nuageux, mais on a un début de journée marqué par le soleil. Et je vous dirais pas mal toute la journée, chaud, humide, 29 degrés, l'humidex 32, avec des vents très légers. Les nuages vont s'installer au cours de la soirée. Et là, on prévoit des averses et même des orages. C'est comme ça tout au cours de la nuit, avec un minimum de 16 degrés. Pour ce qui est de la fin de semaine, demain samedi, la journée démarre avec du soleil, des nuages, température un peu plus fraîche, là, le maximum prévu autour de 20 degrés. Par contre, en après-midi, la possibilité d'averses demeure élevée, risque d'orage aussi. Et finalement, on a un maximum, je vous le disais, de 20 degrés, avec des averses aussi durant la nuit. Alors, c'est un samedi divisé en deux. Ça commence pas si mal, mais ça va se gâter. Et je vous dirais probablement jusqu'à dimanche matin. Alors, dimanche 7 juin, on prévoit une superbe journée avec du soleil et 22 degrés. Commençons ce matin par les protestations, les manifestations aux États-Unis. Hier, c'était la 10e journée ou 10e soirée de manifestations dans les rues de plusieurs villes américaines. Je vous donne quelques exemples des événements. On peut dire d'abord que ça a été assez pacifique dans l'ensemble. Dans le cas de New York, il y a eu des arrestations de gens qui protestaient de façon très calme. Manhattan, le Bronx également, où il y a eu, on le sait, des affrontements plus importants. Il y a un couvre-feu qui a été imposé. Minneapolis, là où origine évidemment toute l'affaire, il y a eu encore des protestations et on a pu voir des scènes aussi où même des dirigeants de la police locale ont mis le genou au sol en solidarité avec les citoyens. Boston également, il y a eu une vigie qui s'est installée pour dénoncer les protestations. Il y a eu cette cérémonie hier extrêmement touchante qui précède les funérailles de Floyd. Et ce qu'on comprend, c'est que la blessure, évidemment, est extrêmement profonde. Pas que pour les Noirs, pas que pour les Latinos ou les Arabes. Je pense que pour les Blancs aussi, qui n'acceptent pas de tels gestes de violence de la part d'un policier. Et on le rappelle, c'est un meurtre. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui s'est passé. Et même les rapports d'autopsie, on a beau avoir déterminé que l'homme avait des préconditions, qu'il avait intoxiqué de la drogue, mais ça n'explique pas son décès. Et d'ailleurs, il y a un autre témoin qui sort et qui est rapporté par le New York Times. En fait, ce témoin est celui qui était dans la voiture avec Floyd, qui dit d'abord que Floyd est reconnu comme étant un gentil géant et qu'en aucun moment, il n'a résisté à l'arrestation. Que les policiers sont arrivés avec une attitude et un ton extrêmement agressif. On se rappelle la nature de la plainte, là, une transaction avec un faux billet de 20 $ et que, compte tenu de son état, il a eu de la difficulté à aller donc s'installer dans le véhicule de patrouille. Et là, est-ce qu'il a glissé? Et ce témoin-là est un témoin important pour la poursuite. Et c'est là qu'il s'est retrouvé au sol et il dit qu'il a vu son ami agonisé et que ce sont des cris qui restent marqués dans sa mémoire à jamais. Alors, ce témoin-là s'exprime pour la première fois et c'est un témoin quand même clé. Et hier, j'écoutais les gens de la communauté noire, les leaders spirituels qui s'exprimaient. Et la grande question, c'est qu'au-delà de la rage, au-delà de la colère qui s'exprime, comment politiquement la situation peut changer? Je résume les propos d'un des leaders qui disait hier, en évoquant le souvenir de Martin Luther King, « I have a dream » et annonce regroupement politique à Washington devant le monument de Lincoln pour justement tenter d'amener des changements majeurs dans cette société. Et ça ne dépend pas d'un projet de loi, le changement de mentalité. Mais quand tu dis que pendant 400 ans, tu as mis ton genou sur mon cou, c'est un des thèmes qui a été utilisé hier, ça montre un peu la brisure de l'Amérique. Et ce matin, je vais parler avec Grégory Charles, qui a publié un texte sur Facebook avant-hier, où il parle de son père, j'appelle sa mère blanche, son père noir, difficulté de trouver un logement et l'attitude de son père et des leçons que lui, personnellement, en a tiré. Bon, parlons maintenant de notre dossier pandémie, COVID, ouverture des commerces. Peut-être le 15 juin des restaurants, mais d'abord le sport, parce qu'on a donné les détails hier. Ça veut dire qu'à partir du 8 juin, les jeunes et moins jeunes qui font des sports d'équipe vont pouvoir s'entraîner, évidemment à l'extérieur. Les fédérations sportives doivent soumettre un plan. Il y en a qui l'ont fait, d'autres pas, c'est à venir. Donc, on va recommander la base, là, c'est-à-dire de se laver les mains avant d'aller pratiquer du sport. Même ça peut aller de se laver les mains à chaque fois qu'on revient, qu'on touche un bâton. Et bon. Porter le masque aussi dans le cadre de l'exercice. Et également s'assurer que chaque joueur a ses propres équipements. Là. Ça inclut une gourde, par exemple, une bouteille d'eau. On pense peut-être, et Alain le disait tantôt, qu'il pourrait y avoir des matchs d'ici la fin du mois de juin, mais encore là, ça reste à déterminer. Les activités d'alpinisme, par exemple, plein air, guidées, seront permises, donc avec un entraîneur, mais toujours à l'extérieur. Même chose pour ce qui est du conditionnement physique ou encore du yoga. Des cours comme tels peuvent reprendre, mais à l'extérieur. Alors, il n'est pas question pour le moment de rouvrir les gyms. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Pas juste les propriétaires de gym, mais beaucoup de gens qui sont abonnés puis qui ont hâte de pouvoir retourner. Puis on sait que là aussi, il y a des directives assez strictes sur le nombre de membres à l'intérieur d'un club de gym, par exemple, en même temps, puis désinfecter tous les équipements, les appareils. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant, donc c'est vraiment une première période pour ce qui est de l'entraînement. Alors, depuis quelques jours, circule la rumeur voulant qu'on puisse rouvrir les restaurants à partir du 15 juin. Dans la presse, Marie-Claude Lortie en parle ce matin, mais je vous le disais au début de la semaine, là, les restaurateurs ne veulent qu'une chose, sortir du brouillard. Dites-nous où on s'en va. Quelles seront les conditions qui me seront imposées? On peut en deviner quelques-unes, là, mais qu'est-ce qu'on va nous imposer pour rouvrir? Puis là, après ça, comme restaurateur, tu prends ta décision. Est-ce que tu peux rouvrir? Est-ce que c'est rentable de le faire avec 50 % des places? Pas certain que c'est le cas pour tout le monde. Il y a des restaurants où la surface est assez grande que ça peut se gérer, puis d'autres qui ne peuvent pas le faire. Et je vous donne un exemple aussi d'assouplissement qui a été permis. Ça, c'est un projet de loi là, pour les restaurateurs. Alors, permettre la livraison d'alcool par les services de livraison qui existent, comme Uber Eats et d'autres. Également, permettre aux clients de boire de l'alcool sans manger. Donc, tu pourras aller dans un restaurant, prendre un verre, tout simplement. Les propriétaires de bars vont chialer, mais ça serait permis. On voudrait également permettre que les boissons alcooliques pour la livraison ou pour être emporté, aient un prix différent que celle en salle à manger. On pourrait payer moins cher, donc tu n'aurais pas le prix de la carte habituelle. Alors, ce sont des changements qui veulent aider le restaurateur, ce qui en soit très bien. Mais là, on a besoin plus de détails. Est-ce qu'on va juste permettre la réouverture des terrasses, par exemple? Puis les restos qui n'en ont pas, les autorités municipales ont déjà indiqué qu'on pourrait peut-être les installer. Il n'y aurait pas de permis cette année, ou en tout cas, ça dépend évidemment de chacun des endroits. Mais c'est clair que c'est une industrie. Puis on a tendance, on n'est pas juste là parce que ça nous tente d'aller au restaurant. C'est majeur comme industrie. Puis actuellement, c'est un secteur de l'économie là, qui est un des plus touchés. Et à Montréal, l'industrie touristique va tomber à zéro. Là. Et beaucoup de restaurants vivent des festivals et de la venue de gens de l'extérieur. Parce que si le courant « Venez pas en région, Jean de Montréal » existe encore, je ne dis pas que c'est 100%, mais il y a encore, disons, dans l'air, cette espèce d'idée de dire ben, « Restez chez vous jusqu'à l'an prochain, puis on n'a pas tellement envie de vous voir. » Pas certain qu'il y a beaucoup de touristes qui ont envie nécessairement de venir à Montréal aussi. Alors, on va vous parler de ces mesures qui ont été présentées hier. Vous vous souvenez, c'est Radio-Canada qui avait diffusé un reportage sur une résidence du groupe Savoie, là, où on obligeait quelqu'un qui revenait de son rendez-vous médical à être en quarantaine. Donc, un confinement de 14 jours. Puis encore, même s'il y a eu élargissement, là, puis qu'on a redonné des droits aux personnes âgées, il y a encore des endroits là, qui maternent les aînés, c'est-à-dire les vieux, là, comme si c'était des bébés. Un auditeur qui me soulignait là, le genre de question, il habite une de ces résidences-là, là, qu'on lui pose. « Où allez-vous, monsieur? C'est bien nécessaire? » Tu sais, sur un petit ton, là, « Hey! » Il y a toujours bien des limites. Tu as le droit de vivre, là. Tu as le droit, comme personne âgée, aînée, vieille, de sortir. Puis c'est sûr que tu es plus à risque que d'autres, dépendamment, bien, en plus de l'âge, mais surtout de ton état de santé, puis est-ce que tu as des problèmes, par exemple, de maladies chroniques. Mais là, tu as le droit de prendre ta voiture si tu es capable de conduire. Là. C'est encore la... Tu as un permis de conduire. Tu sais, tu as 70 ans, là, tu n'es pas à l'article de la mort. Puis tu as besoin un peu de faire autre chose que d'être installé devant ta TV chez vous à l'intérieur. Alors, Marguerite Blais dit que il y a des amendes qui sont envisagées pour les gens qui limitent les sorties. Alors, vous avez le droit de sortir. C'est important de le mentionner. Un autre effet dont on parle depuis longtemps de la COVID, ce sont les patients non-COVID qui ne se sont pas présentés à l'hôpital malgré des symptômes. Donc, il n'y a pas eu de diagnostic. Je vous rappelle tous les cas de dépistage du cancer du sein qui avaient été placés sur la tablette. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Et c'est le journaliste Aaron Durfield qui revient ce matin en regardant spécifiquement le dossier cancer. Et il y aurait environ 24 000 interventions en oncologie, 24 000 qui auraient été reportées. Et quand on regarde ces cas-là, là, il faut vraiment les opérer. Et on sait que dans les blocs opératoires, ça reprend, ça a repris, mais pas à la vitesse habituelle. Et ce sont des cas là, qui sont déjà diagnostiqués. Mais là, on se dit, combien de gens ont eu peur d'aller à l'hôpital, peur d'aller voir le médecin, et donc qui n'ont pas fait l'objet de diagnostic? Et ces médecins-là témoignent. Du côté du ministère de la Santé, on reconnaît qu'il y a peut-être 70 000 opérations, chirurgies, qui ont été retardées. Et on nous avait annoncé des ententes pour des chirurgies moins invasives avec des cliniques privées ou encore peut-être transférer des patients vers des régions où il y a moins de pression sur le réseau de la santé. Mais c'est clair, clair, clair. Puis on ne le voit pas juste au Québec. Là, quand vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays qui sortent de la pandémie, bien, cette réalité de gens malades, parce que le cancer, lui, n'était pas au neutre pendant cette période-là, malheureusement, il y a des gens qui ont peut-être trop attendu et ont développé des symptômes, donc on peut lire ça ce matin dans De Gazette. L'autre chose qui est intéressante, ce sont les études. Moi, je trouve ça bien de regarder ça. Et il y a Fabien Durif, à qui on a déjà parlé, qui est chercheur, et qui a fait un document que j'ai pu regarder un peu. Et on a modifié certaines de nos habitudes. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est du long terme? Maudite bonne question. C'est la Journée mondiale de l'environnement, là, puis plein de gens qui font des appels aujourd'hui pour dire, ben, continuons à vivre avec peut-être une consommation plus faible, à utiliser moins notre véhicule. Alors, je vous donne quelques exemples des chiffres. À peu près la moitié des gens disent avoir baissé leur consommation de façon générale. Vous allez me dire, quand les commerces sont fermés, ça aide? Oui, mais il y a comme eu un changement de priorité. L'achat local, c'est largement implanté dans la tête des gens. Est-ce que c'est toujours facile? Est-ce que c'est toujours pratique? Le fait que de commander en ligne avec les délais, puis on parle de Post Canada, mais les autres transporteurs aussi ont de la misère, là. Les gens sont conscients que si tu peux aider localement, ben tu vas peut-être être tenté de le faire plus qu'avant. Et on cherche également les spéciaux, puis c'est normal parce que beaucoup de gens ont perdu des revenus de façon temporaire. Il y en a qui ça reprend tranquillement, d'autres qui voient leur revenu baisser. Alors, c'est sûr que c'est pas facile et que c'est même assez, assez dur pour bien des gens. Alors, vous allez trouver ça dans vos journaux ce matin, cette étude-là, mais est-ce que vraiment les gens vont pouvoir garder je dirais, ses habitudes de consommer un peu moins, de cuisiner un peu plus, ou si dès que la vie presque à 100% normale va revenir dans quelques mois, ben ce sera tout à fait différent. 6h15, nous sommes vendredi. Il y a des travaux en fin de semaine, on va y revenir dans deux instants, mais peut-être d'abord le portrait de la situation. Merci beaucoup. Ben, un des effets de cette pandémie, perte d'emploi, ça vient de sortir Bombardier Aviation, là, qui va couper 2500 jobs, principalement ici au Canada. Alors, les détails vont suivre, là, mais Bombardier, donc, qui coupe 2500 emplois. Et je vous parlais de ça, le président de la compagnie sera avec nous un peu plus tard ce matin. On sait qu'on s'était placé sous la protection de la loi sur les faillites. Là, on a annoncé des mesures plus claires, donc celles qui ferment 6 magasins. On va fermer l'ensemble de la bannière Sportium. Donc, les succursales vont être fermées, ce qui veut dire 500 emplois, malheureusement, qui sont perdus. Et on sait qu'une des récriminations, c'était de voir pendant, en fait, au début de la crise surtout, là, d'autres immenses surfaces qui étaient ouvertes sous prétexte qu'ils vendaient des trucs essentiels et qui vendaient aussi plein de choses. Là. Et ça, il a vu des clients probablement qui auraient acheté chez eux, allaient acheter ailleurs. Il y a le phénomène de la vente en ligne. Et là, on va poser des questions au président, mais c'est sûr que actuellement, beaucoup de gens ont des expériences mitigées avec le commerce en ligne pour ce qui est des délais de livraison. Je ne parle pas juste des masques, là. C'est, tu comprends là, que ça peut prendre plus de temps qu'à l'habitude. Puis hier, on a parlé avec le syndicat des postes, on a parlé la veille avec la partie patronale. Je peux vous parler de d'autres transporteurs. Mais tu sais, d'attendre 3 semaines, 4 semaines, exemple, là, tu commandes quelque chose, un article saisonnier. Là, on est au mois de juin. Est-ce que je vais me priver de cet article-là pendant toute cette période? Deuxième question dans le cas de sale, de façon plus spécifique. Acheter en ligne, alors que tu connais les problèmes financiers de l'entreprise, il y en a qui vont peut-être hésiter. Alors, ce sera au président de nous convaincre ce matin, là, comme on dit, on télégraphie la question, qu'il n'y a pas de danger. Parce que le premier réflexe qu'on a tous, c'est de dire, attends un peu, là, avant d'acheter, déjà que c'est long, en ligne, est-ce que j'ai une garantie de recevoir le produit que j'ai acheté? Également, quand on parle de ces pertes d'emploi et de ces difficultés, une autre étude qui montre que beaucoup d'entre vous l'a trouvé difficile cette période. La moitié, à peu près, là, des travailleurs québécois ont un certain niveau degré de détresse psychologique depuis le début de cette pandémie. C'est une recherche publiée par l'Université Laval et c'est nettement supérieur à ce qu'on retrouve. C'est clair qu'à chaque période de l'année, il y a des moments où on est peut-être plus stressé, anxieux, fatigué. Mais quand vous regardez la réalité des gens, là, un travailleur sur deux qui dit « ça va pas bien ». Et tous les experts vont vous le dire, là, faut pas regarder ça en dedans, faut pas accumuler ça. Il faut en parler le plus possible à des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous écouter. 56 % des femmes, 41 % des hommes disent avoir un niveau élevé de détresse psychologique. En 2015, là, c'était 35 % des femmes, 24 % des hommes. Donc, dans le cas des hommes, c'est pas tout à fait doublé, là, mais pas loin. Et certains travailleurs, notamment des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, des services sociaux, secteur aussi où on travaille avec le public, là, je pense aux magasins d'alimentation puis autres, cette anxiété-là est élevée beaucoup plus que pour les autres catégories de travailleurs. Puis, tu sais, je comprends là, quand des gens, je me souviens des courriels d'infirmières, puis de préposés, puis d'auxiliaires, puis tout ça, puis je m'en vais travailler, puis j'ai mal au ventre, puis j'ai la chienne, puis ça me tente pas, mais j'y vais quand même, là. Combien de courriels j'ai reçus comme ça? Bien, c'est ça, l'anxiété. C'est l'anxiété d'être contaminé, de contaminer les gens de la famille. Alors, c'est sûr que c'est encore présent, puis s'ajoute le mystère autour du virus. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Puis également la situation générale financière. Si tu as perdu ton emploi, si les deux dans le couple ont perdu leur emploi ou ont eu des baisses, ça fait beaucoup de choses à gérer. Puis évidemment, quand on a des enfants, surtout peut-être des enfants d'âge scolaire, comment on s'organise, puis de l'horaire, puis il n'y a pas de service de garde, il y a un service de garde. Puis l'été, des camps de jour, tu sais, quand on dit aux parents, si vous n'en avez pas besoin, idéalement, venez pas, parce que il y en a des parents qui en ont beaucoup besoin. Alors, étude donc publiée par l'Université Laval. Il y a eu une excellente nouvelle hier qui est tombée. C'est l'abolition du délai de prescription dans le cas d'abus sexuels. On sait qu'il y avait une limite de 30 ans là, pour pouvoir poursuivre un agresseur ou civil, pas au criminel. Là. C'était, vous auriez pu porter plainte 40 ans après les faits. Là. Mais on sait, et c'est toute la saga des enfants québécois qui ont été abusés par des prêtres. Et il y a eu ce délai de prescription qui a empêché donc des prêtres, pas des prêtres, mais des victimes des prêtres, pardon, d'être compensés. Et c'est une demande là, qui était dans le décor depuis longtemps. Est-ce que la crise accélère les choses? Peut-être. Alors, la ministre Sonia Lebel donc, a annoncé hier qu'elle va déposer un projet de loi qui abolit ce délai de prescription. Et pour reprendre l'expression de Maître Alain Arsenault, le moyen de défense numéro un des organisations religieuses n'existe plus. On ne pourra pas se réfugier en disant « Ah, il est trop tard, vous ne pouvez pas nous poursuivre ». Alors, c'est une excellente nouvelle. Rapidement, avis aux acheteurs de maisons, il y a des études qui tendent à démontrer, ça vient de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, que le prix des maisons pourrait baisser à travers le Canada pour les prochains mois. Certains parlent d'une baisse de peut-être autour de 15 % et que la société aurait l'intention de resserrer ses règles avant de garantir des prêts. Et parmi ces mesures qui sont envisagées, on voudrait empêcher quelqu'un qui fait une mise de fonds d'emprunter pour faire la mise de fonds. Tu as le montant pour la mise de fonds, mais tu ne peux pas avoir un prêt d'être rattaché. Ce serait un des critères. Également, ce serait aussi d'avoir une marge de crédit. En fait, quand je dis une marge de crédit, une note de crédit meilleure. Tu sais, on a tendance peut-être à trop faciliter les prêts, ce qui a amené des gens, bien sûr, à pouvoir acheter une maison, mais se retrouver avec une certaine pression financière. Et là aussi, regarder de façon plus globale, on le fait, mais peut-être pas assez de façon poussée, le portrait financier, les dettes, les prêts, le niveau d'endettement, en gros, des gens. Alors, c'est dans le Globe and Mail que vous allez retrouver ça ce matin. Puis on parlera aussi tantôt de la cohabitation. Je sais que j'en parle souvent, là, mais c'est quelque chose. Là. Puis il y a Mario Girard dans la presse ce matin qui dit en un mot, là, il n'y a personne de content. Les piétons sont pas de bonne humeur. Les cyclistes sont pas contents parce qu'il y a des gens qui se ramassent avec des véhicules, pas des véhicules, mais mettons des scooters puis des trucs comme ça dans les pistes cyclables. Puis tu sais, c'est pas réservé pour ça. Les automobilistes arrachent les cheveux de la tête. Les livreurs sont plus capables. Des aménagements qui font pas l'objet de consultation. Ils ont beau ajuster puis corriger puis nous dire que c'est temporaire. Le monde est en tas. Puis en plus de ça, vous avez des comptes partout. Des chantiers, une chaussée qui est désastreuse. C'est pas juste pour chialer, là, c'est un constat. Si tu te promènes en ville, à pied, en vélo, en auto, c'est une emmerde totale. Même s'il y a moins de véhicules, même si l'activité économique est au ralenti. 6h24. 40 secteurs de Repentigny.